Avant de commencer, donc je vais tous vous saluer dans le nom de Jésus. Et donc juste pour des questions d'ordre technique, alors j'ai bien envie de me mettre un petit peu à côté en fait. Je ne sais pas si c'est possible, je vais juste prendre un pupitre. Alors, je vais vous témoigner que je n'ai pas l'habitude, en fait, de parler dans un micro. Parce que nous, notre salle, bon, elle est petite, donc on a pas trop besoin de l'usage du micro. Mais je vais m'y faire par la grâce de Dieu. Alors, il s'est passé, en tout cas, il se passe ici quelque chose d'assez fort et impressionnant. Alors, lorsque le pasteur Jean-Marc demandait qui avait un témoignage à partager... J'ai voulu me lever et vous allez tout de suite comprendre après pourquoi. Mais le problème, c'est que si je m'étais levé, ça allait prendre une heure, en fait, mon témoignage. Alors, déjà, je te demande combien j'ai de temps, en fait, Jean-Marc.
De toute façon, je sais que tu es limité.
Donc, aucune crainte. Ok, merci. Et en fait, avant de commencer, en tout cas, de vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur, je voudrais partager une pensée que j'ai eue depuis un certain nombre de temps. Je me souviens plus exactement quels ont été nos premiers contacts avec Jean-Marc et Francine, mais j'ai toujours été en tout cas béni par cette communion que vous avez en tant qu'Église dans cette localité. Alors je vous jalousie, j'ai pas de la jalousie pour vous, mais j'ai de l'admiration parce que vous faites partie de ces églises, de cette église, en fait, dans notre pays, l'Orientais, si je puis me permettre de dire ça. Une église mature, en fait. Vous savez, moi, dans ma petite église locale, on est dans les faibles commencements. Et j'ai toujours été touché lorsque je viens ici, parce que j'ai un rêve pour mon église locale, c'est de devenir une église qui prie. Alors, lorsque je viens ici, et en général, en plus particulièrement le mercredi, il y a cette atmosphère de prière. Et ça se voit tellement que Dieu répond aux prières, surtout. Et il y a tellement de témoignages. La manière dont Dieu agit. Et je suis très, très impressionné et béni. Et je bénis Dieu pour les pères et les mères que sont Jean-Marc, Francine, Michel et autres. Et je vous encourage, Église, d'honorer de tels hommes et femmes pour l'œuvre du ministère qu'ils font. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir, en tout cas pour moi, et une grâce aussi d'avoir des gens comme vous qui sont là, parce que j'aime beaucoup, moi, apprendre auprès des aînés. Alors, je n'ai pas l'occasion de profiter de tout ce qu'ils sont, parce que, bon, ils sont occupés aussi, mais si vous avez vraiment l'occasion, je vous en supplie, je vous en prie, profitez-en, parce qu'il y a vraiment une grâce énorme et une onction qui est liée à ce ministère. Et je vous remercie, Église, de cette confiance. Je vais vous témoigner aussi que c'est la première fois que je me déplace pour venir prêcher dans une autre église. Et c'est vraiment une confiance et je t'en remercie beaucoup, Jean-Marc, ainsi que Francine et l'église, de nous recevoir, mon épouse et moi. Alors, j'avais toujours aussi un petit pincement au cœur lorsque je venais ici. C'est que je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à la relève. Non pas que Jean-Marc doit arrêter maintenant, hein. Mais en fait, j'avais toujours cette pensée-là. Et alors que je pensais, le Seigneur m'a mis à cœur une phrase juste que je vais partager avec vous. Cette phrase disait ceci. Les jeunes ne sont pas seulement la relève de demain, mais le relais d'aujourd'hui. Et Jean-Marc, lorsqu'il peut parler par exemple à Laurence, à moi, à ma femme ou à Hervé, ils disent nous sommes des jeunes par rapport à lui, même s'il est jeune aussi. Et moi, lorsque je vois Valentin, Lucie, et je dis ils sont jeunes. Alors, donc, Jean compare ça dans son épître de 1 Jean, il dit il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des pères. Et je veux encourager quelqu'un ce matin à dire... Dieu a certainement mis quelqu'un, un jeune, transmet quelque chose. Transmet. Vous savez, moi, je suis un fort défenseur du discipulat. Et partout où je passe, que ce soit dans mon église locale, quand je rencontre des jeunes, je veux faire d'eux des disciples. Parce que moi-même, je veux en être un. Alors, je t'encourage vraiment, transmettre. Transmets à ces jeunes qui sont autour de toi. Vous savez, ce qui me marque dans le ministère de Jésus, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus n'a pas attendu d'être à la fin de son ministère pour choisir les 12. Hein. C'est au début. Okay. N'attendons pas la fin pour transmettre, mais soyons dans un processus de transmission. Alors, dernier élément d'introduction. Il se passe tellement quelque chose de fort que, je vous ai dit, le témoignage, quand Jean-Marc parlait du témoignage, tout, finalement, ce culte, le fil conducteur, il a parlé d'être témoin, de témoignage, et je me suis dit, waouh, Dieu sait faire les choses. Et je vais juste vous mettre un peu de l'eau à la bouche, mais pas trop parler de ça, alors que je vais introduire mon message et vous comprendrez pourquoi il y a des rendez-vous divins comme ça. Alors, on va projeter mon diaporama et je vais remettre ce temps dans la prière. Seigneur notre Dieu, ton nom est magnifique sur toute la terre et je suis tellement reconnaissant d'être là avec mes bien-aimés. Et je voudrais te confier, Seigneur Dieu, ta parole, parce qu'elle ne repart pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Et puisque tu as voulu sauver les croyants par la folie de la prédication, je te prie que par ta grâce, tu puisses nous parler et tu puisses, Seigneur, nous nourrir. Et qu'au sortir de là, Seigneur, nous continuions à vivre en tant que témoins de ta parole et témoins de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, juste un petit problème technique, mais ça va se régler. Tu peux appuyer sur la diapo, ça passe ou pas? Là, ce que tu as appuyé. Ouais. Ah, super. C'est bon. Super, merci Valentin. Ah, ouais. Alors, je veux vous proposer un thème là, un thème de mon message ce matin. Le thème est un peu mis sous forme interrogative. La semaine parfaite. Point d'interrogation. La semaine parfaite, point d'interrogation. Alors, nous allons nous plonger dans l'évangile de Jean. Alors, j'ai commencé depuis le début d'année dans mon église locale avec une série, justement, de l'évangile de Jean. Alors, ce que je vais vous donner ce matin est un condensé de plusieurs messages. Alors, j'espère ne pas être très, très lent, mais de pouvoir en tout cas en tirer la matière nécessaire pour nous encourager. Et pour cela... Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous faire voir quelques images et je ne sais pas si vous allez vous retrouver, mais tu peux te poser la question de savoir, mais quelle est pour toi la semaine parfaite? Elle ressemble à quoi une semaine parfaite, finalement? Alors, est-ce que pour toi, la semaine parfaite, ça ressemble à quelque chose où tu fais tout bien? Est-ce que la semaine parfaite pour toi correspond à des moments où tu te reposes? Mais dans l'évangile de Jean, nous allons voir dans ce premier chapitre. Mais avant de vous proposer quelques images, j'aimerais juste vous garder en tête en fait pourquoi Jean écrit en fait son évangile. Et il nous donne l'objectif qu'il vise dans Jean chapitre 19. Il dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et je crois que ce matin, que vous le voulez ou pas, puisque c'est l'objectif de Jean, nous allons être challengés dans notre foi. Alors, c'est quoi pour toi une semaine parfaite? Alors, est-ce que pour toi, la semaine parfaite, ça ressemble à ça? Je sais pas. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble plutôt à ça? Non. Ou plutôt, est-ce que tu passes par toutes les émotions possibles durant cette semaine? La semaine parfaite. Et nous allons le voir ensemble. Avant de poursuivre, j'ai demandé à Lucie si elle voulait bien lire le texte. Et donc, je vais l'inviter, si elle veut bien lire le texte. Et donc, nous allons lire dans Jean au chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre.
Merci. Ok, introduction. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vaincu parmi nous. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement : Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » « Mais alors, continuèrent-elles, qui es-tu donc ? » Continuèrent-ils. « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? » ?»« Je ne le suis pas. » »« Es-tu le prophète ? » ?»« Non. » »« Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu ? » Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous ? » ?»« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? » ?»« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. »« De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« Tout me connais-tu ?» lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. »
Merci à Lucie. Évangile de Jean. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être des habitués. Moi, je me souviens lorsque on était nouveau dans la foi et lorsqu'on devait lire un livre des Écritures et des Évangiles, on nous disait « Commence par l'Évangile de Jean ». C'est bien, l'Évangile de Jean. Et comme vous l'avez vu, Jean a une cible, a un objectif lorsqu'il écrit ce texte. Jean écrit ce texte dans la fin du premier siècle où il y a profusion d'écoles philosophiques et dans lesquelles, en fait, beaucoup nient l'existence humaine de Jésus-Christ. Alors, Jean, il a un public cible, il va écrire principalement pour des non-juifs et des non-croyants, ce qu'on appelle dans le jargon biblique les païens, ceux qui n'ont pas la loi de Moïse. Et il va s'adresser à eux, principalement. Et vous allez voir dans la manière dont lui, il écrit justement son évangile, ça diffère un petit peu des autres évangiles. Mais lorsque nous voyons en fait ce premier chapitre de l'évangile de Jean, je ne sais pas, mais on ne peut pas ne pas penser à la Genèse. Parce que lorsque vous voyez un petit peu la manière dont ce texte est écrit, dans sa forme, eh ben, cela nous rappelle en fait le livre de la Genèse. Alors, pour vous donner un petit peu des petits points de repère, peut-être qu'une lecture rapide ne vous permet pas de les voir, mais beaucoup de fois, vous allez voir, en tout cas un certain nombre de fois, qu'il y a cette notion de semaine qui intervient dans le fait qu'ils disent « le lendemain ». Le lendemain, le lendemain. Et nous allons justement être jalonnés dans le découpage de nos textes par ces termes « le lendemain ». Alors, pour commencer, je vais vous proposer cette introduction que l'on a l'habitude d'appeler le prologue dans l'évangile de Jean, qui nous parle de la parole. Cette parole qui était, nous dit au commencement, qui était avec Dieu. Et il ne s'arrête pas là parce qu'il dit que cette parole était Dieu. Et le livre de la Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu. Et Jean, il précise un peu plus parce qu'il dit, mais tout ce qui a été fait, tout ce qui existe, n'a pas été fait sans zèle, c'est-à-dire la parole. Alors, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que cette parole, et en grec, on traduit souvent ce mot par logos, qu'est-ce que cette parole? Et un des commentateurs propose que la parole, comme la parole en tant qu'être humain exprime nos pensées, il dit ceci, ainsi le Christ exprime la nature de Dieu. Par cette parole, il a créé les mondes et par cette parole, il s'est révélé aux hommes. Alors, pour ceux qui regardent un peu ou qui sont confrontés à des revues scientifiques, dernièrement cette semaine, je me suis documenté un petit peu sur, vous savez, on nous parle beaucoup du Big Bang. Ne comprenez pas avec la théorie de l'évolution, mais ce Big Bang qui dit qu'il y a au commencement, en fait, on cherche en fait à comprendre, est-ce que le commencement a commencé? Parce qu'à l'époque, les scientifiques se disaient, mais en fait, tout ça est éternel. Tout ça est éternel et ce scientifique dont j'ai oublié le nom va finalement dire, mais non, il y a un commencement. à cet univers. Et il va dire qu'il y a deux gaz, l'hélium et l'hydrogène, qui ont fusionné ensemble. Et à travers cette explosion, il y a eu la manière dont l'univers est ordonné aujourd'hui. Et tous les scientifiques sérieux s'accordent. C'est qu'il y a une telle précision dans ce monde créé. Ils ne vont peut-être pas jusqu'à dire Dieu, mais ils sont tous convaincus de ça. C'est que c'est ordonné. Alors, Stéphanie Rieder, qui commentait cela, disait, mais elle trouve derrière, finalement, la réponse à la question que deux scientifiques se sont posées. Mais s'il y a eu explosion, qui a allumé la flamme? Et donc, bien sûr, vous et moi, on connaît la réponse. Et elle dit, mais oui, il y a un être. Mais ce qui me attire mon attention plus particulièrement derrière, c'est que la parole nous dit « au commencement, la parole existait déjà ». Ça veut dire, si je prends ce terme de manière logique, c'est-à-dire que avant qu'il y ait le commencement pour nous en tant qu'êtres humains, il y avait déjà la parole qui avait déjà son commencement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si elle existait déjà, c'est qu'elle est un petit peu avant notre commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Puisque tout ce qui existe a été fait selon la parole. Et lorsqu'on lit le premier chapitre et les premiers versets du livre de la Genèse, il y a un terme que l'on traduit par tohu-bohu, qui donne l'état en fait de la terre. Il nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la terre était informe et vide, c'est-à-dire tohu-bohu. Et lorsque moi je m'arrête là et je me dis, mais pourquoi Dieu par Moïse a-t-il voulu qu'on sache que la terre était informe et vide? Alors c'est mon premier encouragement de ce matin. Vous savez, lorsque souvent on entend les témoignages de conversion, les gens disent ce qu'ils étaient avant. Il y a un point qui vient se glisser entre la vie des gens, c'est lorsque Jésus intervient. Et il nous dit ce qu'ils sont après. Vous savez, j'aime bien le terme « état des lieux ». C'est en fait ce que Dieu fait. Il donne l'état des lieux de la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'après que Dieu ait parlé, la terre ne sera plus informe et vide. Et donc, il veut que nous puissions comparer l'avant et l'après. Et c'est peut-être le cas de ta vie. Et je voudrais te dire que c'est une bonne nouvelle. Si tu as pu faire l'état des lieux de ta vie en te dire que je suis dans un état d'informe et vide. Dis-toi que lorsque Dieu va parler, tu ne seras plus dans l'état d'informe et vide. J'aime cet état des lieux. Alors, lorsque la parole, elle vient se manifester, on nous dit que cette parole-là, qui était avec Dieu, qui a tout fait, était la vie des hommes. Et cette vie guidait les hommes comme une lumière. D'accord, non seulement qui éclaire dans l'obscurité, mais qui peut guider aussi les hommes. Et Jean qui va nous rapporter un petit peu la bonne nouvelle introductive de cette lumière va dire, mais en fait, cette lumière, elle brille toujours dans les ténèbres. Vous savez, c'est une expérience scientifique que vous pouvez faire. Hein. Vous mettez une petite bougie dans l'obscurité, oui, elle brille. Mais il nous dit, par contre, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Si on va un peu plus profondément dans le mot qui est employé ici, veut dire les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Et lorsque tu fais un état des lieux de ta vie et tu dis, mais je suis un petit peu dans l'informe et vide et je suis un petit peu dans les ténèbres, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que lorsque la lumière va briller, les ténèbres ne pourront pas l'étouffer. Bien-aimés, les témoignages que nous donnons sont une occasion de manifester la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jean ici, le disciple de Jésus-Christ, en écrivant finalement ces mots de l'évangile, veut faire, veut susciter. Rappelez-vous sa mission, c'est que vous croyez au nom de son Fils unique. Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu a agi et il a créé. Il a créé ce que nous sommes. Alors, ce bref introduction nous emmène vers un tableau que je vais appeler comme un tableau de procès, en fait. Nous allons revenir dans l'évangile de Jean à partir du verset 6. Il nous fait état de quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste et il décrit sa mission, on l'appelle un témoin. Vous voyez un peu le lien de ce qui s'est passé depuis le début du culte jusqu'à maintenant ? On l'appelle le témoin parce que sa mission, tout simplement, c'est de rendre témoignage à la lumière. Alors on peut se demander, mais pourquoi la lumière, pourquoi Jésus a-t-il besoin qu'on lui rende témoignage ? Pourquoi il y a quelqu'un qui doit convenir précurseur comme un porte-parole ? On va le voir tout à l'heure. Par contre, il y a un constat que j'en fais tout de même. Même si ce témoin est venu rendre témoignage à la parole, il nous dit quand même qu'elle est venue dans le monde et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. C'est un constat que nous pouvons faire, bien sûr, dans notre vie. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais s'il y a les uns, il y aura aussi les autres. Et la bonne nouvelle est celle-ci, c'est qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné quoi ? Le pouvoir, dans le grec c'est l'exousia, de devenir enfant de Dieu. Alors là aussi, il y a une bonne nouvelle qui s'attache à cette identité. Bien aimé, le contact avec la parole te fera devenir. Il y a certains qui sont devenus des témoins, ils sont devenus des enfants de Dieu, mais tu ne peux pas rester intact lorsque tu es au contact de la parole de Dieu. Je vais faire juste une aparté. Pourquoi j'ai choisi ce texte ? Parce que le jour où, la dernière fois que le pasteur Jean-Marc est venu prêcher, il a prêché sur les cinq premiers livres de la Bible, vous savez, la Pentateuque. Et vous savez, il y a deux types de messages que lorsque vous écoutez, vous ne pouvez pas rester indemne, en fait. Permettez-moi l'expression. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le coup ici, mais moi, la dernière fois, quand il a prêché sur ses cinq premiers livres de la Bible, j'ai fait un appel et tout le monde s'est levé. C'est impressionnant. Et lorsque j'étais tellement touché par ce message, et cela m'a inspiré pour le message que je vais vous donner. C'était juste une parenthèse. Alors, lorsque on est en contact de la parole, on devient quelqu'un. On ne reste pas à l'état juste d'un forme et vide. On devient. C'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle à sauvegarder. Oh, il y en a d'autres qui ont rendu témoignage. Et Jean, celui qui écrit ces livres, en tout cas à qui on rend la paternité de cet évangile, lui aussi va rendre témoignage. Il dit que lorsqu'ils ont été en contact de la parole, ils ont été transformés, non pas par une volonté humaine, mais il dit, mais nous avons été transformés par une action du Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'à la création, l'Esprit il se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a parlé, l'Esprit a agi. La création s'est faite. De telle manière que ceux qui sont nés ne sont pas nés d'une volonté d'homme. Mais il nous rappelle, mais ils sont nés de Dieu. L'identité d'enfant n'est pas tout simplement d'enfant d'un homme. Mais c'est enfant de Dieu. On tire notre source directement de Dieu. Et il dit, cette parole s'est faite chair. Et lui, de sa part, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit qu'elle a habité parmi nous. Et nous, nous avons contemplé cette grâce. Et il a déversé sur nous toute forme de grâce et de grâce, une après l'autre. Et c'est ce qu'il appelle la plénitude. Le témoignage. Voilà au moins trois témoins. Jean-Baptiste, Jean, disciple de Jésus, et l'Esprit de Dieu. Ils sont témoins de l'œuvre de Dieu. Alors, on va se concentrer peut-être à ce que nous, maintenant, nous pouvons tirer de ces textes. Alors, je vous invite à cette semaine. Réfléchissons à la semaine parfaite. Qu'est-ce qui est pour toi une semaine parfaite ? À la lumière de ce texte, je voudrais analyser avec vous le premier jour, que je nomme aussi comme sous-titre « Le procès du témoignage ». Il se passe quelque chose dans ces versets, les versets 19 à 28, c'est que ce Jean-Baptiste-là, qui avait pour mission de rendre témoignage à la parole, fait face à une hostilité. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on va dresser un tableau un petit peu de procès, où il y a un accusé. Alors, on nous dit à partir du verset 19 que voici le témoignage que Jean-Baptiste rend lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander quelque chose. Alors, pour nous expliquer un petit peu, Jérusalem, c'est la capitale. La capitale, vous avez des chefs religieux et vous avez aussi plusieurs parties dans le judaïsme à l'époque. Et les prêtres et les Lévites qui ont... Lévites, vous savez, qui vient de Lévi, qui sont nés de Jacob. D'ailleurs, ce nom, j'aime bien ce nom parce que ça veut dire celui qui s'attache. Parce que lorsque Léa va enfanter, elle dit « Maintenant, mon mari s'attachera à moi ». Et la vie des Lévites est caractérisée par leur attachement au temple, leur attachement au tabernacle. Et plusieurs années, décennies par la suite, ils ont aussi été comme les enseignants du peuple. Et là, en fait, puisqu'ils sont comme les garants de la loi, de l'enseignement du peuple, eh bien, ils voient un jeune homme qui arrive et qui commence à faire des activités, si vous me permettez le nom, des activités religieuses ou encore spirituelles. Et ils se posent des questions, bien sûr. Quel est cet homme-là qui vient et qui fait des choses, qui enseigne le peuple? Et ils viennent questionner quoi? L'identité de Jean. Et ils viennent le dire ceci. Toi, qui es-tu? Mais derrière cette question, eux, ils ont un arrière-plan, une grille de lecture. Parce que selon la loi, ils attendent quelqu'un, un libérateur. Et ils veulent se rassurer, est-ce que c'est vraiment lui? Mais ils commencent par dire, qui es-tu? Et j'aime la manière dont Jean y répond. Il va leur dire ceci. Moi, je ne suis pas le Messie. Déjà, je ne suis pas ce libérateur. Mais ils vont insister. Ils vont dire, mais quand même, dis-nous, qui es-tu? Parce que, en fait, nous, on vient te voir parce qu'il y a des gens qui nous envoient là. Il y a l'élite qui nous envoie et nous, il va falloir qu'on rende des comptes. Qui es-tu? Parce que avant ce texte, si vous voyez les versets 16 juste avant, on nous dit que versets 16 et 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et Jean, qui est le précurseur de Jésus, a reçu, comme vous allez le lire, vous allez le voir tout à l'heure, tout le bagage de son ministère par une révélation de Dieu. Et j'ai l'impression, je voudrais prendre cette image, j'ai l'impression que la loi vient questionner en fait la grâce. Vous savez, ceux qui étaient garants de la loi viennent questionner celui qui est le précurseur du nouvel ère, qu'on appelle la grâce et la vérité. Alors la loi va questionner la grâce et la vérité, et vont lui poser la question, mais qui es-tu? Et Jean va répondre avec cette phrase qui me surprend tellement, parce qu'il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit. » Mais d'où il tire ça? Juste la suite va nous le dire. « Comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Alors, vous pouvez vous poser la question, mais comment Jean, à ce moment-là, sait qu'il est celui dont parle le prophète Ésaïe? Alors, comme Jésus, lorsque il va se retrouver dans le temple et il va dérouler le rouleau du livre et il va lire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, vous savez, car le Seigneur m'a oint. » Mais justement, ils avaient je sais plus comment on appelait ça à l'époque, les rouleaux. Ils avaient ces rouleaux-là. Et donc Jean-Baptiste a sûrement lu ce dont Ésaïe parlait. Mais Dieu l'a révélé cela pour son ministère. Alors, lorsque la loi vient t'accuser, je te donne une bonne nouvelle, c'est que réponds par les promesses. Lorsque la loi vient questionner ton identité, dis ce que les promesses disent de toi. Alors, si quelqu'un vient te dire, mais pourquoi fais-tu ceci? Qui es-tu? Tu peux le répondre, je suis un enfant de Dieu. Parce que Dieu a dit de moi, je suis un enfant de Dieu. Alors, c'est un petit peu le principe que prend ici Jean-Baptiste. Il dit, mais moi, je suis juste cette voix de celui qui crie dans les déserts. Et je me suis un petit peu arrêté, je me suis dit, mais pourquoi Ésaïe a-t-il choisi cette expression, qui en tout cas est traduite dans notre langue française, la voix de celui qui crie dans les déserts? Vous avez déjà imaginé une voix qui crie dans le désert? Sérieusement, ça sert à quoi une voix qui crie dans le désert? Par définition, le désert, il n'y a personne. Pourquoi une voix crie dans le désert? Déjà, la voix. Je trouvais ça excellent parce que derrière la voix, si vous voulez, c'est un petit peu le support de quoi? De la parole. En d'autres termes, il est en train de dire, moi, j'ai juste la voix. Mais la parole, elle vient d'en haut. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache dans le désert? Rappelez-vous, ce peuple d'Israël qui a vécu dans le désert. Et combien de fois Dieu ne les a pas appelés dans le désert? Crier pour parler à ce peuple-là qui est toujours endurci. Jésus va inaugurer un nouvel exode de grâce et de vérité. Alors la voix crie. Rendez les chemins du Seigneur droits. Ils vont continuer en lui posant la question, et une question très fondamentale, parce que l'activité de Jean se caractérisait principalement par le fait qu'on l'ait même donné un surnom. On l'appelait Jean le Baptiste, parce qu'on a l'impression qu'il passait toute sa vie à baptiser les gens. Et donc on va lui demander, mais alors, si tu n'es pas le Messie, pourquoi baptises-tu? Mais pourquoi est-ce important? Alors je vous rappelle que à l'époque, et dans le milieu religieux, il y avait beaucoup de, je vais appeler ça aujourd'hui, des dénominations dans le judaïsme. Vous avez des pharisiens, puisqu'on nous dit que ceux-là étaient des pharisiens, vous avez des sadducéens, vous aviez d'autres. Et en fait, certaines pratiques d'initiation, lorsque vous voulez adhérer à un parti, eh bien, ils pratiquaient aussi une forme de baptême. Alors, si vous me permettez l'expression, c'était un petit peu comme nous aujourd'hui dans des baptistères, c'était... Vous aviez des briques, je ne sais plus comment on appelle ça vraiment. Vous avez de l'eau. Et vous étiez initié, d'accord, à suivre un parti, un maître, par ce biais-là. Et c'était fort, parce que derrière, le baptême signifiait que ces gens qui venaient se faire baptiser adhéraient à une nouvelle, si vous voulez, dénomination. Et donc, cette question est fondamentale pour eux. Pourquoi tu baptises? Pourquoi baptises-tu? Si tu n'es ni le Messie, ça veut dire loin de l'Éternel, le libérateur d'Israël. Si tu n'es ni Élie, pourquoi Élie? Parce que on nous fait état par le prophète Malachi que l'esprit d'Élie devait venir. Mais dans 2 Rois, au chapitre 2, verset 11, on nous dit aussi que le prophète Élie n'est pas mort. Et dans certaines personnes, dans leur conception, ils attendaient que Élie revienne pour les parler de la fin des temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils lui demandent « Pourquoi es-tu Élie ?» Et troisièmement, es-tu le prophète? Alors, on trouve la réponse pourquoi il pose cette question dans Deutéronome 18, 15 à 18, où Moïse nous dit, mais Dieu enverra un prophète comme moi. Et donc, ils veulent se rassurer, qui es-tu et pourquoi tu baptises? Alors, Jean va faire cette réponse, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Alors, vous savez, lorsque des maîtres, des rabbis, vous savez, des personnes qui avaient une certaine autorité parce qu'ils avaient de la connaissance, hein, vous avez des écoles rabbiniques à l'époque, et aujourd'hui aussi, et on les appelait rabbis. Et ils avaient de surcroît des disciples. Et ces disciples-là étaient appelés souvent à faire certaines tâches. Mais Jean, ici, il fait état d'une tâche qui n'est pas soumise aux disciples d'un rabbi. C'est une tâche qui est réservée aux esclaves. Et il dit, moi-même, je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Alors, pour ceux qui ont peut-être été en Israël, moi, dans mon pays d'origine, ça me suffit de voir, vous n'avez pas de route, vous avez de la terre partout. Et lorsque vous faites des milliers de kilomètres sous la terre, je vous assure que vos sandales ne sont pas belles. Vous imaginez ce que cela veut dire pour Jean? Alors, après ce procès du témoignage, Jean arrive à s'en sortir. Le premier jour. Qu'est-ce que tu gardes de ce premier jour? Lorsque la loi questionne ton identité, répand par les promesses. Répand par ce que Dieu dit de toi. Enchaînons avec le deuxième jour. Le deuxième jour, je l'ai surnommé « témoigner ». Alors, il y en a eu beaucoup de témoignages ce matin et c'est assez encourageant. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Jésus n'est pas vraiment actif, en fait. Il est comme passif. Parce que ces gens qui le voient, et il s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean s'écrit et cette louange émane un petit peu de lui. Et lui, il se résume à dire, appeler Jésus jusqu'en mettant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, il est convaincu. Il sait que cet homme est le salut d'Israël. Alors, quel meilleur terme pour faire comprendre à ceux qui l'environnent que c'est lui. Alors, vous savez que l'agneau était sacrifié principalement pour la fête de la Pâque. Un agneau sans défaut ni tache. Mais celui dont il parle, c'est un agneau avec A majuscule. Ce n'est pas juste un agneau parmi d'autres, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui vient même de Dieu et qui ôte le péché du monde. Jean fait de la publicité pour lui. Vous savez, à l'époque, lorsqu'un personnage arrivait, avant qu'il arrive, on envoyait des émissaires pour parler de lui. C'est un petit peu ce que fait Jean ici. Il est en train de donner une bande d'annonce pour le Messie. Oh, il va dire plein de choses. Mais une chose qui est nécessaire, voilà pourquoi je dis qu'il a reçu la révélation de Dieu. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et il résume son témoignage en disant ceci, et j'ai vu, et je l'atteste, qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque vous témoignez de l'œuvre que Dieu fait dans votre vie, ce n'est pas juste arrêter de votre état, non. Le plus important dans votre témoignage, c'est que vous devez arriver à une conclusion de qui Jésus est pour toi. Oh, quelqu'un va dire, moi, Jésus est pour moi le réparateur de brèches. Oh, quelqu'un va dire, Jésus est pour moi le secours dans la détresse. Mais tu dois arriver à dire, prononcer par l'expérience que tu as vécue toi-même, qui est Jésus pour toi. Jean va donner une place à s'élever. Il n'a pas juste dit un des fils. Il a dit celui qui a été engendré du Père, le Fils de Dieu. Bien-aimé, cette déclaration est lourde de sens. Peut-être pas pour vous ce matin, mais pour l'époque, si. Il est le Fils de Dieu. Alors, quelle affirmation tu gardes, toi, de ton témoignage? Lorsque tu es appelé à témoigner, qu'est-ce que tu gardes? Quel nom tu donnes à ce Jésus? On va le voir tout à l'heure, c'est assez beau. Ah, enchaînons avec le troisième jour. Le troisième jour, toujours le lendemain après, Jean est là avec deux de ses disciples. Et il voit encore Jésus. Jésus qui passe, il redit la même chose. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais là, il se passe autre chose. C'est qu'à ce moment-là, lorsque les deux disciples entendirent ces paroles, qu'est-ce qu'ils font plutôt? Ils laissent leur maître et se mettent à suivre Jésus. Moi, je voudrais dire à Jean, mais super, tu as fait une super pub. Les gars, ils te lâchent et ils suivent Jésus. Mais ça y est, il a réussi. Il a réussi son témoignage. Et juste ces mots suffisent pour eux. Et lorsqu'il vient voir Jésus, les questions, vous savez, Jésus a souvent des questions où on a l'impression, pardonnez-moi l'expression, où il est à côté de la plaque. Mais ces questions sont tellement lourdes de sens. Il pose la question de savoir, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Bien aimé, vous savez, Lorsque, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous suivez Jésus, même Jésus lui-même, il nous demande de prendre garde. Lorsque tu suis Jésus, est-ce que tu as des garanties quand même? Que vraiment, ce type-là, il est digne de confiance. Mais je t'assure que lorsque tu suis Jésus, si toi, tu ne te poses pas des questions, Jésus, lui, va te questionner. Et c'est ce qu'il fait. Il leur demande, mais que cherchez-vous? Et ils répondent, ils disent, Rabbi, ce qui signifie maître. Et ils lui répondent par une question. Où habites-tu? Ah ouais? Où demeures-tu? J'ai appris qu'il y a quelqu'un dans le monde évangélique qui a fait une thèse juste sur cette question-là. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de faire une thèse dessus, mais elle est lourde de sens. La première question, c'est « Que cherchez-vous ? » Et eux, ils répondent par une question « Où habites-tu ? » Elle est quand même assez précise. Parce que moi, je vais voir où tu habites. Je vais, en quelque sorte, il veut dire « Moi, je veux demeurer avec toi. » Et là, le maître va les répondre, conformément à la portée de leur question. Venez. Et ils nous disent qu'ils virent où il habitait. Et le plus important, c'est qu'ils restèrent avec lui. Ils restèrent avec lui. Quand tu questionnes Jésus, lorsqu'il te questionne, quelle est ton attitude après? Est-ce que tu vas vraiment au bout? Et est-ce que tu demeures avec lui? Est-ce que tu restes avec lui? Ils restèrent avec lui tellement de temps qu'il va se passer quelque chose. C'est que André, l'un des frères de Simon, Pierre, qui était l'un des disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui a suivi Jésus, lui, il va maintenant rencontrer son frère, Simon, et lui dit ceci. Nous avons trouvé le Messie. Alors, moi, j'aimerais attirer ton attention. Jean, lorsqu'il était avec ses deux disciples, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Mais les deux disciples sont restés avec Jésus. Il s'est passé quelque chose. Eux, à leur tour, ils veulent voir un ami, un frère. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais eux, ils ne disent pas « Nous avons trouvé l'agneau de Dieu ». Ils disent « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ ». Ça veut dire que loin de l'Éternel, le libérateur d'Israël dont nous parlent les prophètes depuis des décennies, nous l'avons trouvé. Ensuite, je suppose que Pierre est convaincu, Simon est convaincu, puisqu'ils le conduisent vers Jésus. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire? Bien-aimé, lorsque vous êtes appelé à être témoin, vous devez être sensible aux mises à jour. Est-ce que vous comprenez les mises à jour? Alors, on est à l'époque de la technologie où votre ordinateur, souvent, il vous s'arrête, ils disent « Tant que tu n'as pas fait des mises à jour, je ne continue pas. » Avec votre téléphone, vous êtes souvent appelé à des notifications où il faut mettre à jour. Bien-aimé, je pense que l'Église de Dieu doit réfléchir vraiment aux mises à jour. Et Paul, et c'est vraiment une... voilà comment je l'explique. Paul va prier, je crois que c'est dans le livre des Éphésiens, il va dire, je prie pour vous afin que Dieu vous accorde un esprit de révélation dans la connaissance. Alors la connaissance et la révélation sont deux dimensions de la manière dont Dieu nous parle. La connaissance se résume à l'âme, et la révélation, c'est de l'esprit. Alors la mise à jour dont je te parle là consiste à la révélation de Dieu en fonction de la personne qui est en face de toi. Lorsque tu demeures avec Jésus, tu ne restes pas indemne. C'est-à-dire que derrière cela, ils ont été inondés de la présence de Dieu. Et Jésus s'est certainement révélé à eux d'une certaine manière, où il a compris que pour Simon, il fallait parler du Messie. Parce que, alors, le problème avec nous, Église de Jésus, c'est, entre guillemets, pour ceux qui se font l'évangélisation. Mais ici, on va plutôt parler d'être témoin. Vous savez, souvent, on a un autre patois, qu'on appelle le patois de Canaan, où, en fait, à chacune des personnes, on répète absolument la même chose. Bien-aimé, il est important que tu fasses les mises à jour. Ça se passe dans la présence de Dieu. Et cette mise à jour va te permettre d'interpeller ton frère qui va être sensible à ce que tu dis. Je suis désolé de le dire, mais vous comprendrez mon explication. Plusieurs d'entre nos contemporains ne connaissent pas Jésus. Alors si vous venez, souvent vous lui dites, bah, écoute, je vais parler de Jésus. Souvent ça ne les parle pas. Et souvent ils peuvent vous repousser. Parce que d'autres ont une mauvaise image de qui est Jésus. Mais une des choses qui m'a interpellé, c'est que, est-ce que dans l'Ancien Testament, vous avez déjà lu le nom Jésus ? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus, ce nom-là, vous l'avez déjà lu dans l'Ancien Testament ? On est d'accord ? Alors, les témoins de Jésus, là, vous allez même voir qu'ils vont utiliser le nom de Jésus après sa mort. Ils vont l'appeler Seigneur. On va l'appeler Yeshua, pour ceux qui étaient de ses contemporains. Mais dans l'Ancien Alliance, dans l'Ancien Testament, on ne nous donne pas le nom Jésus. On l'appelle Emmanuel, on l'appelle Dieu Tout-Puissant, on l'appelle Réparateur de Brèches, on l'appelle... Mais le nom Jésus apparaît dans le Nouveau Testament. Si Jésus, lorsqu'il s'est incarné lui-même, a voulu se faire comprendre aux hommes en disant, par exemple, « Je suis la lumière du monde », il est, c'est vrai. Mais pour toi et moi, pour comprendre, il faut qu'il prenne un qualificatif qui te soit commun, afin que toi, tu accèdes à qui il est. Donc, n'ayez pas peur. Peut-être que mon voisin, mon frère, a besoin, dans sa circonstance, dans sa situation, a besoin que tu lui dises « Jésus est mon ancre et ma voile ». Vous savez, en Bretagne, on connaît bien la mer. Hein? Donc oui, ça le parle. J'ai trouvé l'ancre et la voile de ma vie. Ah bon ? Mais oui, il est attiré par ce que tu dis. Bien-aimé, faites attention aux mises à jour. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que comme l'apôtre Paul le disait aux chrétiens d'Éphèse, c'est que Dieu nous donne un esprit de révélation dans la connaissance. Amen. Alors, lorsqu'il conduit ce Simon vers Jésus, il se passe quelque chose d'assez précieux pour ce Simon. Parce que Simon, là, on va lui donner un nom qui est attaché à sa destinée. On va le changer de nom. Je vous ai dit que tous ceux qui ont contact avec la parole de Dieu vont devenir. Alors, ce Simon, il n'est pas resté Simon, fils de Jonas, mais on a dit qu'on va l'appeler Céphas, ce qui veut dire Pierre. Et vous savez par la suite, qu'est-ce que ce nom a de l'importance dans la vie de la première église, n'est-ce pas ? Il est important que tu fasses des mises à jour. Il est important que tu devines la révélation dans la connaissance. Alors, tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à être témoin. Nous arrivons progressivement à la fin et cela nous amène au quatrième jour. Et j'ai donné comme sous-titre « Témoignage confirmé ». Le lendemain, Jésus décida de se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe et il dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la même ville d'entrée de Pierre. J'aime souvent ces clins d'œil. Hein, souvent, les gens parlent de clins d'œil. Moi, j'aime parler de clins d'œil. Bon, ça ne vient pas de moi, mais... Et où Jésus, C'est pour moi, en tout cas, qui suis étranger dans ce pays, c'est qu'on a toujours une certaine on va dire, chaleur lorsqu'on rencontre un compatriote. Vous savez, il y a toujours quelque chose, comme on dit, du pays. Et je pense que dans une communauté, ou en tout cas dans une congrégation, c'est toujours chaleureux de rencontrer quelqu'un qui est de chez nous. Et là, j'ai l'impression que Jésus n'échappe pas à cette règle. Il dit, il décida de se rendre en Galilée et rencontra Philippe. Et on nous dit que Philippe était de Bethsaïda, de la même ville d'André et de Pierre. Je sens qu'il y a quand même une connexion qui se fait assez facilement. On est du même village. Ah tiens, waouh, on parle, on est très vite intégré dans l'équipe. Mais pour suivre Jésus, Philippe, lui, il a juste besoin d'un « suis-moi ». Jésus lui dit « suis-moi ». Et il laisse ce qu'il a et il suit Jésus. Mais il n'est pas resté là. Il nous dit ceci, que Philippe, lui, il rencontra un certain Nathanaël. Et il va lui dire ceci. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce que vous avez vu l'ensemble des arguments là ? Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Il lui donne son nom, Jésus de Nazareth. Il lui donne même sa paternité, si on peut dire, fils de Joseph. Et comme par hasard, Nathanaël, lui, il va regarder les derniers arguments que Philippe lui dit et il lui dit, mais mon coco, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Oh. Sérieux? Philippe qui vient de suivre Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais lui aussi, il a fait des mises à jour. Parce que lorsqu'il présente le Messie, il ne dit pas c'est l'agneau de Dieu, il donne des arguments. Alors toi aussi, tu peux peut-être arriver dans une étape de ta vie où tu ne cesses d'argumenter sur la foi avec quelqu'un. Tu lui dis tellement d'arguments, mais Jésus, il t'aime, Jésus est Seigneur, Dieu veut le bonheur pour ta vie, tout. Et le gars, ton interlocuteur, il a toujours des idées pour te contrecarrer. J'imagine Philippe, dit, mais attends, moi je te sors tous ces arguments, la seule chose que tu viens me dire, c'est, est-ce qu'il peut sortir de banc quelque chose de Nazareth? Il casse, quoi. Il peut être découragé. Et là, c'est ce que j'appelle l'argument prise de finition. Prise de finition. Et Philippe va lui répondre, ok, bon, j'ai épuisé mes arguments. Maintenant, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je te donne juste un argument, un dernier. Viens et vois. Toi-même, viens voir. Et tu feras ton avis, tu donneras ton propre avis. Moi, j'ai épuisé tous mes arguments. Viens et vois. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es épuisé de donner des arguments. Alors dis à celui ou celle qui est ton interlocuteur, viens et vois. Va lui dire, viens et vois. Oh, ce qui se passe est assez fabuleux. C'est que lorsque Jésus voit Nathanaël, il discerne l'homme. Et il lui dit ceci, bon, toi Nathanaël, tu es un homme, un Israélite d'une parfaite droiture. Je te connais. Il n'y a toi aucune ruse. Mais Nathanaël commence à être surpris, dit, mais attends, il y a quelque chose qui se passe, qui me dépasse. Et il pose la question à Jésus, mais comment tu me connais? D'où me connais-tu, toi? Et Jésus va lui donner une parole de connaissance. Il va lui dire, écoute, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Hein? Willy? Alors, je vous explique pourquoi ma réaction est aussi démesurée. Alors, à l'époque, au temps de Jésus en Israël, l'arbre de figuier est caractérisé par ses branches. En fait, vous avez dans l'arbre du figuier des longues branches, en fait, qui partent du haut, qui descendent presque à terre, en fait. Et souvent, les Israélites, les Juifs, de manière générale, avaient comme l'habitude soit de se reposer à cet endroit-là, ou soit même de méditer, parce que comme c'est un pays chaud, eh bien, vous avez de l'ombre. Donc même le gars qui pouvait juste passer à côté ne pouvait pas forcément voir qu'il y a quelqu'un. Alors Jésus ne lui dit pas ici, je t'ai entendu, peut-être que Philippe était en train de méditer ou de prier. D'ailleurs, il y a certains commentateurs qui nous disent que Philippe, à ce moment-là, ils étaient sous le figuier et ils recherchaient vraiment Dieu, ils se questionnaient et qu'ils méditaient. Et il lui dit, non, c'est pas que j'ai juste, écoutez, j'étais vu. Alors chez moi, on dirait, non, ce gars c'est un sorcier, c'est pas possible. Bien-aimé, Jésus est capable de te dire qui t'a vu, qui te connaît. Alors, face à cet argument-là, que peut dire un homme qui te révèle exactement qui tu es et te révèle carrément qu'il te voit, alors qu'il c'est quasiment impossible sous ce figuier de voir quelqu'un. Alors, j'aime bien cette partie parce que on n'a pas le temps de regarder plus profondément, mais c'est ce que j'appelle l'expression de louange. Il dit, ok, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je vais terminer en vous demandant de prêter attention à ceci. Lorsque Jésus va parler après à Nathanaël, il va le dire, mais c'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu que tu crois. Et il dit, alors désormais, tu vas voir de plus grandes choses. Alors, prête attention à ceci. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, la foi vient de ce qu'on entend. Ok ? Alors, quand Jésus parle, il veut susciter en toi de la foi. Par contre, tous ceux qui ont vu les miracles de Jésus n'ont pas forcément cru, ni n'ont pas forcément eu la foi. Mais la parole de Dieu suscite la foi. Alors il va leur dire, vous verrez maintenant. À partir du moment où vous avez cru, vous inquiétez pas. Vous verrez maintenant de grandes choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que si tu crois, je suis sûr et certain, tu verras la gloire de Dieu. C'est une certitude, mon bien-aimé. Oui. Alors, c'est quoi pour toi une semaine parfaite? Concluons avec... Alors, vous n'avez peut-être pas imaginé, mais vous savez, juste après le chapitre 2, là, on nous dit 2 jours plus tard. On était au 4e jour et on arrive au 6e jour. Alors, rappelez-vous un peu de la création. Vous rappelez qu'est-ce qui se passe le 6e jour de la création? Quelle est la particularité du 6e jour? La création de l'homme et de la femme. Alors, dans le chapitre 2, vous savez qu'est-ce qui se passe? Au début du chapitre 2 de Jean, il est invité à un mariage. Comme quoi pour dire, Jésus est pour l'alliance du mariage. Cette alliance témoigne de l'œuvre de Dieu. Parce que rappelez-vous, au commencement, Dieu a dit, dans tout ce qu'il avait fait qui était bon, il y a une chose qu'il a dit qui n'était pas bon. Que l'homme soit seul. Alors, dans ce mariage, il va se passer que Jésus va transformer l'eau en vin. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu ces images, mais l'eau utilisée pour le baptême, pour la purification, l'eau que Jésus, là, va transformer, il va le transformer en vin. Et plus tard, avant de mourir, Jésus va initier ce qu'on vous appelait la Sainte Cène, ce qu'on appelle la Sainte Cène. Et là, il va prendre ce symbole du vin comparé à son sang. Et lorsque le Seigneur sera sur la croix, sur son côté, qu'est-ce qui va sortir? De l'eau et du sang. Alors, on n'a pas forcément le temps de voir ces symboliques, mais rappelle-toi, l'engagement avec Dieu nécessite bien sûr de passer par les eaux du baptême, de confesser que Jésus est ton Seigneur, Sauveur, parce qu'il a versé son sang, et de participer à la table du Seigneur en communion avec les saints. Bien-aimé, c'est quoi pour toi une semaine parfaite? Et j'aimerais te laisser avec ceci. La semaine parfaite, c'est celle qui témoigne de Jésus. Amen. Alors, dans ce témoignage, on peut avoir... Vivre en témoin est une identité. Et là, je voudrais te rapporter juste à Actes 1, verset 8. Commencer avec Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu. Rendre témoignage de Jésus et faire la volonté de Dieu. Alors, j'ai pas demandé au pasteur tout à l'heure, c'est vrai que le temps passe, mais si vous me permettez juste, j'avais vraiment à cœur d'interpréter et de chanter ce chant avec vous. Anna et moi, on va juste entonner un chant. Et je ne sais pas comment Dieu t'a parlé ce matin. Je voudrais te laisser avec ce verset. Jésus, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Alors que je vais vous demander, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, de bien vouloir vous lever. Et s'il y a des gens qui veulent réagir dans la prière, eh bien, sentez-vous libre alors que nous allons chanter ce chant. Je vous invite juste à vous lever à votre place. Tenir la main de ton voisin à côté, tenons-nous main dans la main. Alléluia.
Mais nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend.
Oui, nous voulons être.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend.
Notre Père plein de
détruit notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant.
Notre Alléluia. Alléluia.
Détruit notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant.
Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent
pour ce
que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Ta puissance, rends-nous les témoins, un royaume qui se répand. Fais brûler nos pères au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins. Royaume qui se répand, qui brûle nos chers au sein des ténèbres, dans l'eau. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Des quatre vents et agis en nous.
Alors chantons que ton règne,
que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Des quatre et agir.